Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Nous avons demandé à ce que les déplacements d'urnes soient dûment justifiés. On sait que les déplacements sont en cours. Quels sont les motifs et les raisons de ces déplacements ?
Les Turcs votent ce dimanche et ça n'est pas sans mal, comme le montrent ces urnes que l'on déplace mine de rien. Législative et présidentielle anticipée, Erdogan qui joue sa place, c'est finalement pas si simple pour lui non plus. C'est du côté des Kurdes que nous irons voir, qui peuvent avoir une partie du scrutin entre leurs mains. Ce sera l'escale reportage d'Un jour dans le monde, ce soir aussi sous les radars. Et Florence Paracolos dans le mausolée de Franco et avec le regretté Marvin Gaye. 18h50, l'instant écolo de Sandy Dauphin et la fin des pulls en mohair, parce que le mohair, ce sont de petites chèvres. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Pendant que l'Europe patine, alors que Français et Allemands se sont retrouvés ce soir pour parler d'Europe, la défense, elle, avance, figurez-vous, et c'est ce qu'on verra avec lui. Mais avant, on compte les déracinés avec le HCR et les chiffres qui permettent parfois de tordre le cou d'ailleurs à certaines idées reçues. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir entre les mains ce bilan annuel des déracinés, des réfugiés dans le monde, pour faire simple, parce qu'il remet beaucoup de choses en perspective et c'est ça qui est intéressant, surtout par les temps qui courent. Tout ça n'est pas inutile à la veille aussi de la Journée mondiale des réfugiés. Bonsoir Céline Schmitt.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du commissariat aux réfugiés des Nations Unies pour ici en France. On aura Alessandra Morelli en ligne au téléphone dans un instant, qui est représentante du HCR. Au Niger, on viendra ensemble dans un instant sur les différentes propositions qu'on a entendues et qui sortent de cette réunion entre les Allemands et les Français cet après-midi. Avant cela, je voudrais donner le chiffre. Donc 68 millions de personnes déracinées dans le monde. Ça fait 44 500 par jour. Ça fait une personne toutes les deux secondes qui est forcée de se déplacer. Quand on remet le curseur à ce niveau-là, c'est-à-dire vraiment à hauteur d'homme, hauteur de jambes, de gens qui s'en vont, ça change la perspective, Céline Schmitt.
Oui, tout à fait. Quand on s'imagine que en fait 68 millions de personnes, c'est plus que la population française, et qu'on peut s'imaginer à un moment donné que tous les villages de France soient vides, ça nous permet en fait de mettre ça en perspective. Mais ce qui est important dans ce chiffre, et il est important de donner les chiffres, mais il est important aussi de savoir où sont ces personnes. Et en fait, par ce rapport, on montre aussi que la majorité de ces personnes sont directement dans les pays voisins des pays en conflit.
Alors c'est ça, on va commencer par là. Parmi les idées reçues, mais tous ces gens s'en vont vers nous, les pays du Nord. Ça c'est une première, presque une fake news au final, c'est pas vrai. La grande majorité ne monte pas vers nous, si je puis dire, mais reste tout autour. Avec un espoir de retour, c'est aussi ça que ça veut dire, non ?
Oui, tout à fait. La majorité, 85% des déplacés dans le monde sont dans les pays qui sont directement voisins, des pays qui ont fui, ils sont voisins directement de la Syrie, du Myanmar, de la République démocratique du Congo, du Soudan du Sud, de la Somalie. Ils sont dans des zones qui sont effectivement parfois proche de la frontière. On impose quand même une certaine distance pour des questions de sécurité, mais ils vivent très souvent dans ces zones avec la population qui les accueille, et qui très souvent justement dans ces pays, qui sont parfois des pays en voie de développement, qui font face aussi à des défis et qui ont en fait des défis pour répondre aux besoins de leur population aussi.
Et typiquement, c'est peut-être ça qui a fait bouger les chiffres cette année, parce que les chiffres sont en augmentation cette année par rapport à l'année dernière. Par exemple, vous avez cité la Birmanie, les Rohingyas réfugiés au Bangladesh. Est-ce que ça fait partie des choses qui, cette année, ont fait exploser une partie des chiffres ?
Oui, ce sont ces situations-là. C'est notamment les réfugiés Rohingyas qui sont arrivés au Bangladesh. Ils sont maintenant plus d'un million, mais ils sont plus de 600 000 à avoir fui depuis août de l'année dernière. Ce sont effectivement aussi les réfugiés du Soudan du Sud qui sont arrivés en Ouganda, mais aussi les réfugiés de République démocratique du Congo qui sont arrivés en Ouganda. Toujours les réfugiés syriens, là aussi où le chiffre a augmenté, qui sont dans les pays voisins. Et donc, effectivement, il y a eu une augmentation de près de 3 millions de réfugiés dans le monde. Et cette augmentation est liée à quelques situations.
Vous dites aussi, et c'est intéressant, il y a donc ceux qui sont dans les pays, tous les limitrophes, et puis il y a ceux qui sont déracinés dans leur propre pays, c'est-à-dire qui quittent un endroit mais qui restent à l'intérieur de ce pays. Et là encore, ça correspond à peu près à 2/3. Ce qui est un chiffre énorme.
Oui, et c'est effectivement aussi quelque chose qu'on ne sait peut-être pas toujours. C'est que la majorité...
On ne veut pas regarder parce qu'on regarde autre chose ailleurs, on regarde chez nous, on regarde les bateaux qui arrivent, on regarde tout ça.
et qu'effectivement on en parle moins. Et en fait la majorité des personnes qui fuient des conflits ou la persécution restent dans leur pays et parfois ne sont déplacées que d'un village à un autre, de quelques dizaines de kilomètres. Mais ils sont déplacés à l'intérieur de leur pays, mais ils ont aussi besoin d'une protection.
Céline Schmitt, est-ce que ça existe, le portrait robot du réfugié déraciné, là aussi loin des clichés habituels, quel âge il a, où est-ce qu'il vit, est-ce qu'il est urbain, est-ce qu'il est rural, est-ce qu'il y a un portrait qui se dessine ou c'est difficile ?
Il y a beaucoup d'enfants. Il faut pas oublier que la majorité des réfugiés dans le monde aujourd'hui sont des enfants et qui ont besoin d'une assistance effectivement d'urgence, mais aussi d'éducation. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut rappeler aussi, ce besoin en fait de prendre en compte les enfants. Et après, les réfugiés, pour moi aussi, en avoir rencontré beaucoup, et que ce soit dans différents pays sur le continent africain ou aussi ici, ce qui est vraiment une chose qu'on retrouve toujours, c'est cette envie de sécurité. C'est la première chose qu'un réfugié va dire, cette envie de vivre dans un pays en paix et de pouvoir penser à son avenir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au commun, et alors très souvent, effectivement, l'espoir quand même un jour de pouvoir rentrer chez eux.
Et alors ce qui nous amène vers ce qui nous préoccupe en ce moment, et encore sûrement pour beaucoup de jours et de semaines, c'est ce chiffre également, 63% de l'ensemble des réfugiés est réparti dans 10 pays. 10, donc littéralement ça se compte sur les doigts, à peine des deux mains, mais vraiment pas plus. 10 pays seulement, c'est pas beaucoup.
Non, 10 pays, c'est pas beaucoup. Et encore une fois, ce sont les pays qui sont voisins, des pays en guerre. Alors, pour les réfugiés syriens, il s'agit de la Turquie, il s'agit du Liban, il s'agit de la Jordanie. Pour les réfugiés du Soudan du Sud, il s'agit de l'Ouganda. Il va s'agir de l'Éthiopie aussi. Donc oui, et si des solutions sont trouvées, en fait, à ces conflits, le nombre de déplacés dans le monde baisserait largement.
Mais ça veut dire qu'on est où, nous, dans cette liste ? On est à quel niveau quand effectivement les Turcs d'abord, les Libanais ensuite, etc. Nous on est où là-dedans, nous les Français ou les Italiens ou les Espagnols, on se situe à quelle place ?
Alors effectivement, tout d'abord les déplacements, la majorité des déplacements sont sur le continent africain, dans les pays voisins du Liban, de la Syrie, pardon, comme on disait, avec la Turquie qui accueille un nombre de plus de 3 millions de réfugiés syriens. Et ensuite, effectivement, vient l'Europe, où en France, par exemple, actuellement, il y a un peu plus de 200 000 personnes qui sont réfugiées en France. Mais c'est vrai que si on compare ce chiffre avec l'Ouganda, par exemple, qui en accueille en fait plus d'un million de différents pays, c'est vrai qu'il y a une différence.
Quand on entend aujourd'hui, donc français et allemand, on en reparlera la semaine prochaine au moment du sommet des 28 et 29, parler de plateforme régionale de gestion des réfugiés, on y met beaucoup de guillemets, ça veut dire réinstaller ce qu'on a longtemps appelé les hotspots, c'est-à-dire des espèces de centres en fait. Alors ils parlent de l'Afrique du Nord, ils parlent aussi de l'Albanie, ils parlent d'endroits comme ça. Vous, au HCR, est-ce que vous dites pourquoi pas ou est-ce que vous dites halte là, attention, très mauvaise idée ?
Alors il y a une chose qui est extrêmement importante pour nous, et c'est de mettre en place plus de voies légales pour les réfugiés. Et c'est vraiment un sujet sur lequel on a fait beaucoup de plaidoyer et on travaille avec les États. On a mis en place par exemple un programme d'évacuation humanitaire de réfugiés de Libye vers le Niger, où il y a un centre de transit d'urgence, où ensuite les réfugiés sont réinstallés par des pays, principalement européens. Et donc ces mécanismes de réinstallation sont extrêmement importants pour nous. Et l'année dernière, puisqu'on parle de chiffres, le nombre de réfugiés qui ont été réinstallés dans le monde a baissé par rapport à l'année d'avant. Ils ne sont que 100 000 à avoir pu bénéficier de cela, alors qu'on estime à 1 200 000 le nombre de réfugiés qui auraient besoin de ces voies légales, parce que ce sont les réfugiés les plus vulnérables et qu'ils ont besoin de cette solution pour être protégés.
Céline Schmitt, vous m'offrez une transition en or puisque vous venez de parler du Niger. Bonsoir Alessandra Morelli.
Oui, bonsoir à tout le monde.
Vous êtes le HCR au Niger, bonsoir à vous. À Agadez, c'est le carrefour, c'est de là qu'on file en Libye, effectivement. Et c'est là que des accords ont été passés qui aident le Niger à installer, on le disait à l'instant, ses candidats au départ. Est-ce que vous dites que ça marche, vous, réellement ?
Notre rôle à Agadez est très clair et on essaye de le renforcer quotidiennement. C'est l'identification des plus vulnérables, des gens qui ont besoin de la protection internationale et qui peuvent bénéficier de l'espace d'asile. Et donc, ceci est un peu recanaliser le discours de l'illégalité dans la légalité des voies alternatives et des voies légales. Ceci, Agadez se retrouve à vivre un moment difficile. Il y a un effet écrasement, je dirais. Et donc, les départs vers la Libye sont de plus en plus difficiles. Mais quand je dis de plus en plus difficiles, c'est les autres routes alternatives qui deviennent de plus en plus dangereuses en même temps.
Alessandra Morelli, est-ce que ça veut dire qu'il faut convaincre les gens de ne pas aller plus loin, de ne pas tenter d'aller jusqu'en Libye? Est-ce que vous arrivez à le faire? Est-ce que c'est possible? Parce que je veux bien entendre la réponse d'un migrant qui dira « Attendez, voilà moi mon but, voilà où je veux aller pour mes enfants ou pour plein de raisons. Est-ce qu'on peut les convaincre de ne pas aller plus loin? Est-ce que ça marche ?»
Pour ce qui concerne les bénéficiaires du HCR, moi je parle des gens qui ont besoin de la protection internationale. Je peux lui parler toute la journée, mais si je n'ai pas une voie légale alternative à lui offrir, je vais le perdre parce qu'il peut prendre une route qui, oui, est dangereuse, mais une route qui peut lui promettre l'Eldorado ailleurs. Il me faut derrière moi, avec moi, un espace de solutions pragmatiques et concrètes et réelles qui se traduit dans la solidarité de pays qui offre de places d'accueil.
Ce qui est un peu ce qui, là où le bât blesse aujourd'hui, est-ce qu'on le sait, là où vous êtes, parmi les gens avec lesquels vous travaillez, ce qui se passe avec les bateaux, que c'est compliqué d'accoster, que l'Europe freine, est-ce que ça vient jusqu'à vous, est-ce que ça vient jusqu'à leurs oreilles, est-ce qu'ils en parlent?
Disons que ce qui se passe en Europe, les gens qu'on a ici, nous ici on a trois catégories quand même de personnes. Un groupe qu'on a, c'est les évacués de la Libye dont parlait ma collègue. Et ils sont ici en transit, à peu près 1200 personnes évacuées de centres de détention, de centres de la douleur et de la perte de la dignité de la personne. Et donc, ces gens-là ont entendu. C'est les gens qui ont quitté la Libye ont entendu ça. Et moi aussi, je l'ai entendu en tant qu'Européenne. Une Européenne qui travaille ici au Niger pour les voies légales et qui essaye de donner de l'espoir. Mais je peux vous assurer que ça fait mal. Ça fait mal au cœur.
Ça vous fait mal au cœur à vous, ça fait mal au cœur des gens qui peut-être avaient ce projet-là ou en tout cas attendaient autre chose de l'Europe. Pardon, mais Alessandra Morelli, qu'est-ce que vous leur dites dans ces cas-là?
Ce qu'on dit, c'est que surtout les gens qui sont ici, attendent quand même à partir vers la France. Et je profite pour remercier la leadership de la France dans ce projet d'évacuation des centres de détention. Ils attendent à partir à la Suisse, vers les pays scandinaves, la Hollande, etc. Nous, ici, au Niger, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être solidaire, de rassurer et de reconforter. Il n'y a pas d'autre moyen en ce moment que d'utiliser ces mots et ces valeurs humaines pour s'assurer que cette population se sent toujours partie d'une humanité.
Alessandra Morelli, au Niger pour nous. Merci beaucoup, merci de ce passage d'un jour dans le monde. Céline Schmitt, j'entends Alessandra Morelli nous parler d'un espace de solution collective. C'est bien de ça dont on est en train d'essayer de parler. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de trouver un espace de solution collective? Honnêtement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les eurosceptiques et donc les anti aussi, et on peut entendre beaucoup de leurs arguments également, ont gagné cette bataille, on va dire, contre les migrants?
Alors la réponse effectivement est une réponse globale et c'est l'appel qu'on fait aussi pour qu'il y ait un partage de responsabilités et on travaille sur ce pacte mondial.
Ça fait trois ans qu'on essaye le partage et personne n'a joué le jeu en fait.
Il y a eu les programmes de relocalisation qui ont été mis en place de Grèce et d'Italie, certes ils ont été très lents. Mais pour nous, c'est ça la solution. Et on essaie de continuer à convaincre que c'est la solution, parce que c'est la solution aussi pour que ce soit géré. Et c'est important que ce soit géré. Et donc, dans ce travail sur le pacte mondial pour les réfugiés, c'est ce qu'on met en avant, en fait, pour qu'il y ait un travail ensemble pour arriver, en fait, à trouver des solutions. Et il y a déjà des États qui se sont joints, en fait, à ce travail sur le pacte mondial pour les réfugiés.
Oui, mais alors, quand on regarde les réponses qui ont été faites jusqu'à présent, quand on regarde le nombre de réfugiés qu'on aurait dû accueillir et qu'on n'a pas accueilli, c'était ce qui était dans les accords. Qu'est-ce qui fait que ça peut marcher la semaine prochaine, les 28 et 29, ou même plus tard dans le pacte mondial? Pourquoi ça marcherait cette fois? On a l'impression, au contraire, qu'on vient en arrière. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui refuse ses ports, et puis Malte, et puis la France.
Alors, tout d'abord, pourquoi ça peut marcher? C'est parce que c'est en gérant une situation qu'on peut réussir à trouver des solutions. Et ça fait partie, en fait, des discussions qu'on a avec les différents États et où, encore une fois, on a apporté notre aide pour essayer de trouver des solutions pour que ce soit géré. Mais au-delà de ça aussi, il y a autre chose à faire, et peut-être ça me permet de faire juste un tout petit peu le lien avec la Journée mondiale du réfugié.
Demain.
Qui est demain. C'est remettre l'accent, en fait, sur l'humain.
Et j'allais vous dire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'on ne dit pas, en fait, chez nous, dans nos pays, qui rassurerait les gens? Parce qu'encore une fois, moi, je veux bien entendre les inquiétudes. On entend tous ces choses-là. Qu'est-ce qu'il faut? Comment on fait pour remettre de l'humain? Comment on fait pour convaincre, en fait? Parce que visiblement, on n'a pas eu les bons mots. On s'est trompé.
Ce qui est important, au-delà des mots, c'est aussi la rencontre. Et c'est ce qu'on essaie, en fait, avec notre petit événement de demain pour la Journée mondiale du réfugié à faire. On aura un événement qui sera à Grande Contrôle à côté de la gare de Lyon pour, en fait, créer ce moment de rencontre entre des réfugiés et les populations hôtes. Parce que ce que nous avons vu, et ce que j'ai vu moi aussi dans des petits villages en France où sont accueillis des réfugiés, où il y a des peurs, et parfois des discours qui sont durs, quand la rencontre a eu lieu, ces peurs disparaissent. Et très souvent, je me souviens d'habitants d'un petit village en Alsace qui m'ont dit « Ah ben non, en fait, c'est nos voisins maintenant. On a échangé avec eux. » Et quand les réfugiés partaient, parce qu'ils étaient là que pour un certain temps, ils disaient « Ben non, ils sont partis trop vite, ils auraient dû rester, les enfants auraient dû rester à l'école ici. » Donc il faut essayer, en fait, de trouver les occasions aussi pour créer cette rencontre.
Et ça se passe demain, Journée mondiale des réfugiés. Ça se passe tout à l'heure sur France Inter, puisqu'on en reparlera dans le téléphone sonne. Vos questions sont les bienvenues autour de tous ces thèmes-là. Merci mille fois, Céline Schmitt.
France Inter. Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, c'est en Turquie où se préparent les élections de dimanche. Sous les radars, et Florence Paracuelos avec Franco en Espagne et Marvin Gaye aussi. Le moment écolo de Sandy Dauphin. Sandy, bonsoir.
Bonsoir.
C'est la fin du mohair alors.
Oui, on parlera de l'efficacité des vidéochocs des associations de défense des animaux. De plus en plus de marques de vêtements renoncent à cette laine toute douce.
Et à tout à l'heure, le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
18h55, l'Europe des migrants, on en parlait à l'instant. L'Europe du budget, c'est une chose aussi, mais on a beaucoup parlé défense cet après-midi. Là, ça avance plutôt vite.
Et oui, je vais vous causer drone. Et chars, et si le vrai sujet d'entente entre Paris et Berlin était effectivement la défense.
Ne bougez pas, on reste ensemble. Le tour de la planète n'est pas fini, il passe par les États-Unis. Stevie Wonder est là. You can work it out. Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can go on? Why you see it your way? On the risk of knowing that. Soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short.
c'était Stevie Wonder sur France Inter. You can work it out.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimakiul Capion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Florence Paracolo sous les radars. Florence, on commence avec l'Espagne. Ne l'appelait plus le mausolée de Franco, alors.
La Valle de los Caídos, la vallée des morts en français, ce vaste monument au nord de Madrid, surmonté d'une croix de 150 mètres, abrite la dépouille de Franco, toujours fleurie, à côté de celle de Primo de Rivera, fondateur de la Falange, le parti fasciste espagnol. Avec eux, 33 000 victimes de la guerre civile, nationalistes et républicains. Franco, après avoir fait construire le bâtiment par des prisonniers républicains, voulait en faire un lieu de réconciliation. Il y repose depuis sa mort en 75 et vous imaginez les débats que cela suscite en Espagne. Pour mémoire, la guerre civile espagnole, c'est 200 000 morts au combat, suivi de 150 000 assassinats et exécutions. Débat tranché hier par le nouveau Premier ministre socialiste Pedro Sanchez lors de sa toute première interview à la télévision.
Este debate nos tiene que llevar.
La question est simple. L'Espagne, en tant que démocratie européenne, peut-elle se permettre de conserver ce symbole qui divise les Espagnols ? Ce serait quelque chose d'inimaginable en Allemagne ou en Italie, des pays qui ont aussi connu des dictatures fascistes. Je crois que ça n'est pas inimaginable non plus chez nous maintenant. Et il n'est pas question de rouvrir les plaies, mais de les refermer, dit aussi Pedro Sanchez. Les restes du dictateur seront donc retirés du mausolée et rendus à sa famille. Et la Valle de los Caídos transformée en mémorial des victimes du fascisme, comme le prévoit une résolution adoptée l'an dernier par le Parlement, mais pas appliquée par le précédent gouvernement conservateur. D'ailleurs, le Parti populaire s'oppose aujourd'hui à cette bataille culturelle socialiste, comme il l'appelle.
La suite se passe aux États-Unis. Florence Quentin. Un monstre du rap s'attaque à une légende de la soul.
Eh oui, c'est Dr. Dre, rappeur et businessman multimillionnaire qui s'intéresse de très près à la vie de Marvin Gaye, dont il s'apprête à réaliser le biopic. Il vient de racheter les droits du chanteur disparu tragiquement à l'âge de 45 ans, tué par son père, pasteur au cours d'une dispute. Après 20 ans de carrière et d'immenses succès avec la Motown dans les années 60 et surtout 70, où son génie voisinait avec la dépression, l'alcool et la drogue, comme souvent dans ces années-là, Marvin Gaye parlait d'amour, de Dieu, mais aussi de politique, comme dans l'immense What's Going On de 1971.
On y passerait bien l'après-midi.
Marvin Gaye,
ça va pas être possible.
Dr. Dre à l'écran. Ça peut être assez chic. Son premier long métrage au Dr. Dre en 2016 avait été sélectionné aux Oscars.
Et on attend ça avec beaucoup d'impatience. Florence Paracolos, merci.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mexique. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est en Turquie que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde. La Turquie qui vote ce dimanche, élections législatives et présidentielles. Et un président Erdogan pas forcément en bonne posture d'ailleurs. Bonsoir Alexandre Billette.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'une des clés de cette élection, Alexandre, c'est le vote kurde. 20% de la population en Turquie. Les Kurdes sont un peu en position de faiseur de roi cette fois-ci, puisque si le principal parti pro-kurde, le HDP, parvient à envoyer des députés à Ankara, il pourrait bien empêcher le parti d'Erdogan, l'AKP, d'avoir la majorité au Parlement. Sauf que, évidemment, Alexandre, rien n'est simple. C'est à Diyarbakir que vous nous emmenez ce soir.
Il s'appelle Tuna Beklevic, il voulait être candidat indépendant pour la présidentielle et il a marché un mois depuis Ankara, 1000 km pour porter un message de paix et de fraternité entre Turcs et Kurdes. Et son point d'arrivée prévu, c'était la vieille ville de Diyarbakir, mais lorsqu'il est arrivé en ville, sous une pluie torrentielle, les policiers l'ont prévenu.
Le message est clair, tu as le droit de marcher 1000 km dans ton pays.
Par contre, si tu rejoins les Kurdes, on ne te laissera pas faire un pas sur les 4 derniers kilomètres pour arriver au centre de Diyarbakir. Donc, être turc à Diyarbakir, ce n'est pas un problème. Mais si vous êtes kurde, alors même respirer est un luxe.
Diyarbakir 2016. Pendant des mois, les forces turques et le PKK ont mené une véritable guerre urbaine dans la vieille ville. Ensuite est venue la tentative de putsch, puis l'état d'urgence, et le principal parti pro-kurde HDP, qui obtient en général au moins les deux tiers des voix ici, est désormais considéré par Ankara comme l'antenne politique du PKK. Alors comment faire campagne aujourd'hui dans cette situation? Le vote kurde sera déterminant le 24 juin. Mais ce que craint par-dessus tout l'opposition, ce sont les fraudes massives comme celles qui avaient été dénoncées après le référendum constitutionnel en avril 2017. Cuma Çiçek, docteur en sociologie politique.
Le déroulement du processus électoral est primordial. Le HDP n'a plus les moyens de le surveiller. La sécurité du processus est uniquement entre les mains de l'AKP et de la bureaucratie. S'il n'y a pas d'initiative populaire qui se met en place pour assurer la conformité du scrutin, il y a de fortes chances qu'il y ait des incidents. Tout ça n'annonce rien de bon.
Une inquiétude supplémentaire dans le sud-est à majorité kurde de cette nouvelle loi électorale qui va entrer en vigueur pour ce scrutin. Une loi qui donne le droit aux forces de l'ordre d'être présents dans les bureaux de vote sur simple demande d'un électeur. Une nouvelle loi qui permet aussi de déplacer ou de fusionner des bureaux de vote pour raison de sécurité. Peut-être la mesure la plus contestée. Gözdesoy Türk est responsable de OYVETSI, un organisme indépendant d'observateurs électoraux.
Nous avons demandé à ce que les déplacements d'urnes soient dûment justifiés, mais pour l'instant, la commission électorale n'a pas répondu. On sait que les déplacements sont en cours. La commission a déclaré que cela concernerait 144 000 électeurs, mais rien n'est encore officiel. Donc nous leur posons la question depuis plusieurs jours. Quels sont les motifs et les raisons de ces déplacements?
Malgré tout, ici, dans un quartier périphérique de Diyarbakir, le HDP a ouvert son bureau de campagne avec discours dans ses ballons. Mais difficile de faire comme si de rien n'était. Et comme l'explique Ziya Pir, il est député du HDP.
La préfecture et les forces de l'ordre ne respectent pas la loi. Ils ont déjà, de facto, commencé à interdire un certain nombre de choses. Ils utilisent la force de l'État pour mettre la pression sur nos militants et nos électeurs. Ils nous demandent des autorisations qui n'existent pas. Ils tentent d'intimider les gens. Nous n'avons aucune instance auprès desquelles déposer plainte. C'est le gouverneur qui est responsable des élections, mais les forces de l'ordre sont sous ses ordres. Ama emniyet güçleri zaten valinin emrinde.
Sous pression, le HDP joue aujourd'hui sa survie politique. Le parti doit absolument faire le plein de voix dans ses bastions comme Diyarbakir pour tenter d'obtenir au moins 10% à l'échelle nationale et donc envoyer des députés au Parlement. Recep Tayyip Erdogan l'a bien compris et il s'en inquiète. Comme il le dit dans cette vidéo prise jeudi dernier lors d'une réunion privée avec des membres de son parti et qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, des propos scandaleux selon les partis d'opposition.
Nos bureaux locaux doivent se concentrer tout particulièrement sur le HDP. Ça, je ne peux pas le dire à l'extérieur. Mais si le HDP ne dépasse pas les 10%, ça veut dire que nous serons en bien meilleure position. Vous allez prendre les listes électorales, vous allez voir qui est qui, et en fonction de ceci, vous allez faire un travail particulier sur eux. On parle de marquage à la culotte. Vous allez faire du marquage.
Voilà, ils feront du marquage. Alexandre Billette en Turquie, merci beaucoup, à très vite. On reparlera de la Turquie, évidemment, dans Un jour dans le monde, et je vous le dis, tiens, ce sera jeudi prochain. Allez, Ben Harper et Charlie Musselwhite, From the One.
hay in a stack of needles, four-leaf clover in a mile of weeds.
Found the one
understands my downs.
Found the one
puts up with my needs of everybody under the sun. I found the one. If you're gonna gamble, may as well be on love.
Found the one.
May have had something before.
Found the one.
But now you can't get enough. Before it's all said and done, I found the one.
Ben Harper, Found the One sur France Inter.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Sintès.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Et Sandy Dauphin qui refroidit, reverdit la planète inlassablement. Sandy, à ceux qui croyaient que les pulls mohair avaient disparu en même temps qu'Anne Sinclair avait quitté la télé, ben pas du tout. Vous nous apprenez que le géant de la mode en ligne qui s'appelle Asos, c'est ça ?
Oui.
Renonce à son tour à vendre des produits qui contiennent de la laine mohair au nom du bien-être animal. Et c'est pas la première grande enseigne apparemment qui décide de prendre une décision de ce genre depuis une campagne choc de l'association de défense des animaux PETA.
Oui, Asos renonce non seulement au mohair mais aussi au cachemire, aux plumes et à la soie, au nom du bien-être des chèvres, des canards et des vers à soie. Début mai, de grandes marques comme Gap, Zara, H&M avaient déjà pris cette initiative. Après la diffusion d'une vidéo choc de l'association PETA, des images tournées en Afrique du Sud dans plusieurs élevages de chèvres angora, dont la laine sert à fabriquer des pulls, des écharpes mohair.
L'Afrique du Sud produit la plupart de la laine mohair. Peu de gens qui achètent un pull en mohair, un tapis, un costume ou une pelote de laine savent comment cette laine est fabriquée, qu'elle provient de bébés chèvres angora, des chevreaux comme celui-ci, morts dans cet élevage.
Alors sur les images, c'est pas très ragoûtant. On voit des chèvres se faire tondre à la chaîne, traîner par terre, parfois écorchées. Il faut dire que dans ce type d'élevage intensif, eh bien les tondeurs sont payés au volume de laine tondue. La cadence a donc tout intérêt à être infernale. L'annonce du géant Asos de renoncer donc à cette laine mohair est applaudie bien sûr par l'ONG PETA. Elle pousse l'industrie de la mode à renoncer alors complètement aux matières animales au profit d'alternatives, je cite, sans cruauté. Cyril Ernst de l'association PETA France.
Il n'y a pas que le mohair, il y a évidemment l'angora, la laine, le cuir, la fourrure. En fait, tout ce qui implique l'exploitation de millions d'animaux dans des conditions industrielles pour satisfaire une demande énorme. Et sur l'angora, par exemple, le marché mondial s'est effondré après la publication par PETA d'une enquête en 2013 sur la façon dont les lapins angora étaient maltraités. Je pense qu'il y a une forte dynamique pour que la mode végane s'impose de plus en plus à l'échelle mondiale.
Voilà, moi je vous le dis, avec le cuir ça va être compliqué. La mode végane nous dit d'opter plutôt pour des fibres végétales et synthétiques, mais est-ce que réellement c'est plus écolo, Sandy, de s'habiller en gros en plastique ?
Eh ben justement, ça fait débat. Lutter contre les élevages industriels intensifs d'animaux, c'est une bonne chose pour le bien-être animal et pour la planète, mais porter des habits en coton ou en polyester, est-ce que c'est plus éthiques? Pas forcément. La réponse de Majdoulin Sbai, cette sociologue, vient d'organiser les premières Fashion Green Days, les journées de la mode verte à Roubaix.
Si on s'intéresse qu'aux matières et qu'on se dit cette matière-là n'est pas bonne, mais on la substitue par une autre qui a d'autres types d'impact, par exemple le polyester qui est une matière issue de la pétrochimie qui émet énormément de gaz à effet de serre, du coton qui utilise 25% des pesticides dans le monde, on ne résout pas justement ce problème environnemental. Si une enseigne ou une marque veut s'attaquer à la question, elle doit se poser plus généralement le problème de son business model. Les textiles que nous consommons, nous en produisons toujours trop.
Bref, la solution, c'est comme tout, hein, Sandy, consommer moins, consommer mieux.
Et oui, l'industrie textile a beau multiplier les initiatives vertes ces derniers mois, avec son modèle économique fondé sur la fast fashion, des collections renouvelées en continu à bas coût, elle reste l'une des plus polluantes au monde, énorme consommatrice de ressources naturelles, notamment d'eau, sans compter les colorants, les produits chimiques, les montagnes de déchets générés. On estime que la production de vêtements dans le monde a été multipliée par 4 depuis les années 80, ce qui nous met aussi, nous, consommateurs, devant nos propres contradiction. Sommes-nous prêts à renoncer au pull mohair à 39,99€ pour en acheter un auprès d'un fabricant qui se fournit en laine dans un élevage de chèvres plus artisanal, plus éthique, il en existe, et payer 3 fois plus cher?
Voilà, bah écoutez, la question reste posée, vous reviendrez pour essayer d'y répondre. Merci beaucoup Sandy Dauphin sur France Inter.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, Paris et Berlin ont donc décidé de se mettre d'accord à 8 jours du sommet européen des 28 et 29 juin prochains. Emmanuel Macron et Angela Merkel étaient réunis aujourd'hui. Ils poursuivent leurs travaux en ce moment même. Ils ont déjà fait plusieurs annonces cet après-midi. Ça touche aux migrants et à la zone euro. On y reviendra forcément tout à l'heure à 19h. Mais vous, dans votre Monde à l'envers, vous dites que le sujet le plus important de cette rencontre, c'est pas l'euro, c'est pas les migrants, c'est la défense.
Ouais, tiens, pour une fois, on va prendre ce que disent les politiques au premier degré, on va leur faire confiance. Par quel sujet Emmanuel Macron et Angela Merkel ont-ils débuté leur conférence de presse il y a 2 heures? Par l'annonce sur le budget de la zone euro? Par le contrôle aux frontières pour lutter contre l'immigration illégale? Pas du tout. L'un comme l'autre ont donné la priorité, en effet, aux questions de sécurité et de défense. Ils ont d'abord confirmé le lancement de 2 projets opérationnels majeurs, 2 projets franco-allemands. Primo, le char du futur, nom de code Main Ground Combat System. Et là, on marque une pause. On parle bien d'un char franco-allemand. Mesurons quand même bien le poids symbolique d'une telle initiative entre 2 pays qui se sont tant fait la guerre. C'est une idée qui a été plusieurs fois évoquée par le passé, jamais mise en œuvre. Voici enfin qu'elle va voir le jour. Le pilotage du projet est confié à l'Allemagne. Objectif 2035 pour trouver le successeur des chars Leclerc et Léopard. Deuxième projet, les avions, nom de code SCAF pour Système de Combat Aérien du Futur. Il s'agit de développer aussi bien des drones, en particulier de moyenne altitude et de longue endurance, que des avions avec pilote, autrement dit les héritiers des actuels Rafale et Eurofighter. Là, le projet sera coordonné par la France, à la fois par Dassault et par Airbus. L'objectif calendaire, c'est 2035 ou 2040. Donc, Paris et Berlin prennent l'initiative pour garantir l'autonomie en matériel de leurs armées et aussi d'autres armées européennes par le biais de financements bruxellois. C'est donc tout sauf anecdotique.
Donc la défense, c'est pas seulement du matériel, Jean-Marc, c'est aussi une capacité opérationnelle sur le terrain. Et là aussi, apparemment, il se passe des choses.
Ouais, et le quelque chose s'appelle IEI pour Initiative Européenne d'Intervention. Les 2 dirigeants l'ont confirmé, là aussi cet après-midi. L'IEI sera officiellement lancée la semaine prochaine. L'idée avait été lancée par le président français en septembre dernier. Vous savez, c'était le discours de la Sorbonne. Angela Merkel embraye. De quoi s'agit-il? De coordonner l'action de 10 armées de 10 pays européens. Outre la France et l'Allemagne, la Grande-Bretagne a confirmé son accord. C'est majeur, hein, vu la capacité britannique en termes de défense. L'Espagne, le Portugal, la Belgique ou le Danemark devraient également en être. Coordination des entraînements, planification commune des opérations, capacité aussi à intervenir ensemble rapidement sur des théâtres extérieurs d'opérations, par exemple le Sahel. C'est une petite révolution. D'autant plus que cette initiative se fait en fait en dehors de l'Union européenne. C'est d'ailleurs ça qui permet l'adhésion de Londres, hein, compte tenu du Brexit. En d'autres termes, ça s'appelle une initiative politique pour dépasser les lourdeurs de l'Union européenne et aller plus vite.
Et alors ce réveil d'une sorte d'Europe de la défense, donc appelons ça comme ça, il arrive quand même un peu tard, non ?
Bah, c'est sûr qu'il y a le feu au lac. Pourquoi ? Parce que le grand protecteur américain menace de plier bagage. Donald Trump le répète désormais à longueur de tweets. La contribution américaine à l'OTAN est trop élevée, la contribution européenne est trop faible. Et à l'Élysée, on commence à être un peu préoccupé par cette petite musique qui monte à Washington. Il suffit de regarder les précédents, hein, sur le climat, sur l'Iran, sur le commerce. À chaque fois, ça a commencé pareil. Hein. Trump a commencé par menacer et ensuite, boum, action. Donc, de là à voir les États-Unis se désengager partiellement de l'OTAN, il n'y a pas des kilomètres, comme on dit. Conclusion, il y a urgence pour l'Europe à assurer sa sécurité de façon autonome. Parce que si Washington se désengage, hein, ça laissera le champ libre à d'autres acteurs. Suivez mon regard, Moscou, Pékin, etc. C'est donc une question vitale de sécurité pour l'Europe. Et c'est aussi une question stratégique pour exister sur l'échiquier international dont on voit bien qu'il est en pleine recomposition. Angela Merkel l'avait dit après le fiasco du G7. Elle l'a répété tout à l'heure, cet après-midi. L'Europe, je cite, doit devenir une puissance avec une culture stratégique. Et là encore, il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe pour l'Allemagne et donc pour l'Europe. C'est un vrai bouleversement idéologique.
Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. On se retrouve donc demain, le 18-20. La suite, c'est le journal de 19h, présenté par Sébastien Paour. Et puis le téléphone sonne. Restez avec nous.